Bonjour à tous. La France en alerte face au variant anglais du coronavirus. Une opération de dépistage de grande ampleur organisée aujourd'hui à Bagneux dans les Hauts-de-Seine. Après un premier cas de mutation britannique du virus détecté dans une école de la ville, nous serons à Bagneux dans un instant. Le cap symbolique des 100 000 Français vaccinés probablement passé ce week-end. L'objectif est d'aller vite, annonce Olivier Véran, le ministre de la Santé. Les pharmaciens souhaitent être associés plus activement à la campagne de vaccination. Invité de ce journal, Stéphane Pichon, président de l'Ordre des pharmaciens PACA et Corse. Le couvre-feu avancé à 18h provoque la colère de certains élus, notamment dans les Bouches-du-Rhône, mesure inutile selon les élus de la région. Dans ce journal également, des chutes de neige historiques et meurtrières en Espagne. La tempête Filomena a fait au moins 2 morts. Donald Trump interdit de tweeter et la prescription culture de week-end avec un premier roman, Ilana Moriusef, en fin d'édition. La météo froide, nuages et neige, les 2 départements corses en vigilance orange pour risque d'avalanche. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal à 13h20. Secret d'info au programme aujourd'hui, Jacques Monin.
Eh bien, une belle histoire en apparence. 35 dessins inédits de Jean-Michel Basquiat ont été présentés dans une galerie de Nuit Saint-Georges. Sauf que plusieurs experts estiment que ce sont des faux. Nous avons donc mené l'enquête.
Jacques Monin à 13h20, secret d'info.
France Inter.
Que s'est-il passé à Bagneux? Comment le variant anglais du coronavirus est-il arrivé dans cette ville des Hauts-de-Seine, dans les écoles et le collège? Un dépistage géant est organisé à partir d'aujourd'hui. Les familles des élèves scolarisés dans ces groupes scolaires sont appelées à se faire tester. En direct de Bagneux, on retrouve Béatrice Duguet. Bonjour Béatrice.
Bonjour.
Il s'agit d'une vaste opération de dépistage pour éviter la propagation du virus.
Oui, le flot aura été régulier dans cette salle Léo Ferré, salle de spectacle, où sont aménagées 4 boxes de prélèvement et 8 postes administratifs. Test PCR pour près de 300 habitants de Bagneux ce matin à la mi-journée. Beaucoup de familles avec enfants.
Chère petite machine électrique. À toute vitesse, en un tour de main.
Tiffaine a prévu des livres pour faire patienter Yuri, son petit garçon scolarisé, dans l'une des maternelles de la ville.
C'est pénible, j'en ai marre, je veux que ça s'arrête. Voilà. On se fait dépister, on fait le nécessaire, on sort pas. Là, ce week-end, on va se reconfiner. Et puis après, les enfants vont voir les grands-parents, tout ça, faut faire attention. Et donc, du coup, aussi, c'est pour protéger les autres, quoi.
Tiffany, une fois cas contact, 2 fois en proie à quelques symptômes. Elle a donc droit à son 4e test PCR qui dépiste spécialement cette fois le variant britannique. Marie-Hélène Amiable, la maire de Bagneux, est satisfaite de la fréquentation du centre ce matin. Il faut dire que tout a été fait pour.
Évidemment, on a un site internet, on a des réseaux sociaux de la ville, on a affiché devant tous les groupes scolaires de la commune, dans tous les équipements publics, sur tous les panneaux municipaux, donc les gens sont quand même au courant. Et puis comme la presse a relayé, donc du coup ça nous a permis de faire passer l'information grand format.
Dépistage à Bagneux jusqu'à 17h cet après-midi. Les tests de ce matin sont déjà expédiés par coursier médical vers un laboratoire.
Béatrice Duguet avec Arthur Gerbeau en direct de Bagneux. Merci, cette opération de dépistage se poursuit cet après-midi, vous l'avez entendu, mais aussi jusqu'à mardi prochain avec une pause demain dimanche. La France est donc en alerte face aux variants anglais du virus à Bagneux. En particulier, Lauriane Rossi, députée La République En Marche des Hauts-de-Seine, appelle la population à se faire tester massivement.
Bien sûr, je recommande de le faire. Je crois que ça permettra à la fois de rassurer tous les habitants de Bagneux et puis ça permettra à nos autorités de santé, à l'ARS d'Île-de-France, d'identifier s'il y a d'autres cas. À ce stade-là, je veux le redire parce qu'on a beaucoup parlé de foyers de contamination ou de clusters. Il n'y a qu'un seul cas détecté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres cas, donc il faut tester massivement. Cette personne à Bagneux n'a pas voyagé au Royaume-Uni, n'a pas voyagé tout court d'ailleurs. Donc on ne parvient pas encore à identifier comment elle a pu attraper ce virus variant. Donc oui, ça doit nous inquiéter. Maintenant, pas de panique. Les autorités de santé sont en train de retracer tous les contacts qu'a pu avoir cette personne. Et puis, pour le reste, j'en appelle à se faire tester massivement, autant que possible. Encore une fois, pour se rassurer et pour briser toutes les chaînes de contamination.
Lauriane Rossi, députée LREM des Hauts-de-Seine. Et puis, concernant la campagne de vaccination, Olivier Véran à Tarbes ce matin dans un centre de vaccination avec le Premier ministre Jean Castex a annoncé que le cap des 100 000 personnes vaccinées serait franchi dès ce week-end. Olivier Véran.
Nous n'avons pas encore atteint totalement le rythme de croisière des vaccinations dans notre pays. Nous sommes déjà là dans la moyenne journalière des pays européens et nous prendrons évidemment un rythme plus important encore, non pas pour se dire qu'il faut aller absolument le plus vite possible, mais parce que les moyens qui sont mis en place le permettent de manière à protéger un maximum de Français. Nous passerons donc probablement le cap symbolique des 100 000 Français vaccinés dans le week-end et nous accentuerons à partir de la semaine prochaine. J'ai rappelé également que l'ensemble des territoires qui ont été pourvus en vaccins et qui en ont besoin à nouveau la semaine prochaine seront fournis toutes les semaines en vaccins à mesure que ces vaccins sont fournis à la France par les différents laboratoires. Je rappelle, 500 000 vaccins seront alloués à la France en supplément la semaine prochaine, puis la semaine d'après, pour le vaccin Pfizer. Et nous aurons 50 000 premières doses du nouveau vaccin, le vaccin Moderna, à partir de lundi dans notre pays, ce qui permettra également d'augmenter les quantités de vaccins disponibles.
Olivier Véran, le ministre de la Santé à Tarbes ce matin. Concernant le couvre-feu maintenant, malgré les discussions au niveau local dans les départements, le couvre-feu avancé à 18h ne se fait pas sans heurts avec les élus locaux. À Marseille notamment, les élus du Bouches-du-Rhône sont furieux. Il y a même un front commun contre la totalité, commun de la totalité des élus de la région contre cette mesure de couvre-feu. Les élus ne voient pas l'intérêt d'avancer à 18h le couvre-feu dans leur département. Martine Vassal, présidente de la métropole, ex-Marseille-Provence.
Tous les élus de ce territoire, quelle que soit leur couleur politique, sont contre le couvre-feu à 18. Ah oui, nous sommes tous contre, ouais. Parce que la difficulté que nous avons, c'est que nous ne voyons pas l'intérêt. Et ce qui va se passer, c'est que ce sont les gens qui vont travailler, qui ne pourront pas aller faire leurs courses et qui vont se retrouver agglutinés dans les transports et qui vont se retrouver agglutinés dans les grandes surfaces. Comment on fait pour aller chercher son pain à 18h si tout est fermé et si on arrête de travailler à 18h? Il n'y a pas 36 solutions. Nous avons été confinés pendant 2 mois, privés de nos libertés. Nous avons vu à ce moment-là que le virus ne disparaissait pas. C'est un fait. Donc nous avons protégé, nous avons testé. Maintenant, nous pouvons vacciner. Donc tous les élus également des Bouches-du-Rhône mettent à disposition la logistique. Mais la problématique, c'est qu'il n'y a pas de vaccin. Et nous attendons ces vaccins avec une grande impatience.
Martine Vassal avec Jean-François Aquilier dans le département de Côte d'Or. Le couvre-feu sera avancé à 18h à partir de demain dimanche, tout comme dans les départements du Cher, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de l'Allier. Ce qui ne sera pas le cas pour la Haute-Savoie où le couvre-feu reste à 20h dans ce département. On revient à Marseille avec notre invité Stéphane Pichon, président de l'Ordre des pharmaciens de Provence, Alpes-Côte d'Azur et Corse. Bonjour Stéphane Pichon.
Bonjour Frédéric Barrère.
Alors vous avez entendu Martine Vassal, vous allez devoir fermer très certainement votre pharmacie à 18h. Est-ce que vous partagez sa colère et ses propos ?
Écoutez, alors les pharmacies sont des organes essentiels dans la santé publique et donc n'ont pas cette obligation de fermer à 18h. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on va devoir se poser la stratégie, on va dire, d'ouverture s'il n'y a plus personne dans la rue. Mais l'accès aux soins est essentiel, notamment par les pharmacies ouvertes et par les pharmacies de garde. Donc, écoutez, pour l'instant, on a été un peu épargné par tout ça. On a de la chance, contrairement à tous les autres commerces, on a été épargné par tout ça. Après, je ne sais pas franchement, je pourrais pas apporter vraiment de réponse efficace sur le fait d'être fermé à 18h ou à 20h.
Alors ce qui nous occupe et vous occupe, c'est la campagne de vaccination donc qui s'accélère, il faut aller vite, a encore dit Olivier Véran ce matin. 100 000 personnes vaccinées, ce cap franchi dès ce week-end. Donc les pharmaciens que vous représentez, vous regrettez de ne pas être associés plus activement dans cette campagne, vous regrettez de ne pas pouvoir vacciner.
Et surtout, je trouve que pour notre population française et nos patients, c'est une perte de chance de ne pas utiliser la pharmacie française qui, quand vous parlez des pays européens, qui a la meilleure répartition dans toute l'Europe, voire même dans le monde, puisque nous avons une répartition. C'est simple, je vais vous abreuver de quelques chiffres, mais qui vont être très compréhensibles par nos auditeurs.
Allez-y.
Il y a 21 000 pharmacies en France métropolitaine. Ces 21 000 pharmacies font en sorte que à moins de 5 km d'un patient, il y a une pharmacie accessible. Alors, je ne parle pas des hypercentres de ville comme vous à Paris, nous à Marseille, à Bordeaux, à Lyon, des grandes villes où on voit des croix vertes clignoter très, très, très proches les unes des autres souvent, mais au bout du Larzac, au bout d'une montagne des Alpes, dans un petit village corse, il y a une pharmacie pour la population. Regardez le mal que l'on s'est donné pour tenir ouverte la pharmacie de Tende dans la vallée de la Roya lorsqu'il y a eu la tempête Alex. On l'a livré par hélicoptère pour qu'elle apporte les médicaments aux patients. Donc c'est continuité de soins, elle a été excellente depuis toujours. Donc, il n'y a pas une petite commune de moins de 2 500 habitants, pardon, qui n'a pas de pharmacie.
Alors, on a bien compris que les pharmacies couvrent tout le territoire national. En revanche, est-ce que vous avez les frigos à -70 ? Comment on fait pour conserver les vaccins ? Est-ce que vous êtes équipé ? Est-ce que vous avez la logistique ?
Bien entendu. Alors, c'est-à-dire, je crois que le pharmacien, c'est le spécialiste du médicament. Mais ce spécialiste du médicament, il ne travaille pas seul. Il y a 50 000 pharmaciens pour le public français, pour les patients français qui sont prêts et qui sont organisés déjà. Vous vous rendez compte qu'on est encore en train de parler de la campagne de vaccination antigrippale qui a commencé en octobre, qui est toujours en cours parce qu'elle s'arrête à la fin du mois.
Et les pharmaciens, ils participent à cette campagne.
Bien sûr, et activement, puisque nous avons vacciné plus de 5 millions de personnes dans une cible très étroite de population à vacciner, qui étaient les plus de 65 ans, les gens relativement malades, tout ça. Donc, ça a été extrêmement efficace.
Mais Stéphane Pichon, est-ce que vous avez alerté le ministère de la Santé, Olivier Véran, pour proposer vos services dans la campagne de vaccination?
Mais écoutez, notre présidente le fait régulièrement. Je sais que Olivier Véran a raison de demander aux gens de se vacciner. On en a un petit peu marre d'être cloîtré chez soi. Il faut que la France revive. Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on parle de 500 000 vaccins. Est-ce que vous savez combien nos grossistes répartiteurs, qui sont nos partenaires, qui livrent les pharmacies une fois, deux fois, trois fois par jour, tous les jours qui existent en France, c'est-à-dire toute l'année. Les grossistes répartiteurs, c'est 530 partenaires sur le territoire français. Ils livrent tous les jours 6 500 000 boîtes de médicaments. Et donc, soit 2 milliards de boîtes par an. Donc imaginez que 500 000 boîtes par semaine pour nous, pharmaciens, qui sommes des spécialistes et du médicament et de cette logistique, de la traçabilité, de la chaîne du froid, c'est epsilon dans notre fonctionnement.
Merci beaucoup Stéphane Pichon, président de l'Ordre des pharmaciens de Provence, Alpes, Côte d'Azur et Corse. Merci à vous. Et puis on a appris que Brigitte Macron a été testée positive au coronavirus la veille de Noël. La première dame, qui était déjà isolée puisqu'elle était qu'à contact du président, a pu rejoindre Paris 6 jours plus tard, le 30 décembre, après avoir été testée négative.
France Inter, le journal de 13h, Frédéric Barrère.
À l'étranger, avec d'abord cette information qui nous est parvenue dans la matinée, un Boeing 737 de la compagnie indonésienne Sriwijaya a disparu des radars après avoir quitté Jakarta ce matin. L'appareil transportait 50 personnes et devait se rendre sur l'île de Bornéo. Selon les médias locaux, des débris suspects ont été retrouvés au nord de Jakarta. Le mauvais temps et la tempête de neige qui sèment le chaos en Espagne. L'aéroport de Madrid est fermé, des centaines d'automobilistes sont bloqués. Le pays est paralysé, l'armée a été mobilisée. La tempête aurait fait au moins 2 morts. Il s'agit des pires chutes de neige depuis 50 ans en Espagne. Et le pire est à venir, Marie-Hélène Ballestero.
On se croirait en pleine montagne, mais non, c'est bien la ville de Madrid. Depuis hier, la capitale espagnole est recouverte d'un épais manteau de neige allant jusqu'à 50 cm à certains endroits. Cela fait près de 24 heures que d'importantes chutes de neige s'abattent de façon continue en provoquant la paralysie quasi totale de la capitale et le chaos sur les routes et les autoroutes. L'armée a même dû intervenir pendant la nuit pour venir en aide à des centaines d'automobilistes et camionneurs qui se sont retrouvés coincés dans leurs véhicules. Certains sont toujours bloqués à l'intérieur depuis hier après-midi. L'aéroport de Badajoz a dû également fermer ses portes. Tous les vols sont annulés aujourd'hui, tout comme les trains, les RER et les autobus. Plus rien ne fonctionne. D'ailleurs, le maire de Madrid, Martínez Almeida, a demandé aux Madrilènes de ne pas sortir de chez eux, car la situation est grave et compliquée et c'est dangereux de circuler sur la voie publique, a-t-il ajouté. En ce moment, il n'y a quasiment personne dans les rues. La neige continue de tomber en abondance. La situation devrait s'améliorer demain. Madrid, Marie-Hélène Ballestero, France Inter.
Il ne lui reste plus que le golf et 11 jours à passer à la Maison Blanche. Donald Trump est privé de Twitter. Le réseau social a suspendu son compte de façon permanente. Le président américain sortant accuse Twitter de museler la liberté d'expression. Le président américain, abandonné par ses alliés, poussé vers la sortie, ne peut plus tweeter. Bonjour Eric Biegala.
Bonjour Frédéric.
Et Twitter n'est pas le seul réseau social à avoir bloqué Donald Trump.
Oui, les principaux réseaux américains, Facebook, YouTube et Instagram, ont pareillement interdit Donald Trump de publier chez eux. Sur Twitter, le réseau préféré du 45e président américain, on assiste d'ailleurs depuis hier à une multiplication de faux comptes Donald Trump, souvent au nom de John Barron, c'était le pseudonyme de Trump dans les années 80. L'un de ces faux comptes, avec photo de Trump barré d'une moustache ridicule, créé hier soir par un animateur de télévision, dispose déjà de 273 000 abonnés manifestement. Certains l'ont effectivement pris pour le nouveau compte Twitter d'un Donald Trump vaguement déguisé. Plus sinistre, sans doute, il y a les autres réseaux sociaux concurrents de Twitter comme Parler, qui se dit le vrai site de la libre parole. En clair, la plateforme n'est pas modérée. Et c'est là que se retrouve une bonne partie de l'extrême droite américaine. C'est sur Parler que, ces dernières heures, on pouvait lire quelques appels à une nouvelle manifestation de patriotes, si possible en armes, à Washington le 20 janvier, jour de l'investiture de Joe Biden. C'est peut-être d'ailleurs ces derniers appels qui ont motivé Google à enlever Parler de son catalogue d'applications pour portables et tablettes. Chez Apple, on a donné à Parler 24 heures pour mettre en place une politique de modération, faute de quoi l'appli sera également retirée de l'App Store.
Éric Biégala, merci. Donald Trump et les réseaux sociaux à retrouver sur notre site franceinter.fr. Comment Facebook et Twitter ont bloqué Donald Trump, franceinter.fr. Et puis selon Cédric O, secrétaire d'État au numérique, la suspension permanente du compte Twitter du président américain est justifiable mais pose des questions fondamentales sur la régulation du débat public. Les soldats de Barkhane à nouveau frappés au Mali. 6 militaires français ont été blessés dans une attaque suicide dans le centre du pays. Un kamikaze a foncé avec son véhicule contre le blindé français. Cette attaque survient après 2 autres attaques la semaine dernière qui ont coûté la vie à 5 soldats français au Marwaman.
C'est la 3e attaque subie par les forces françaises déployées au Mali depuis la fin du mois de décembre. Elle a eu lieu hier matin dans le Gourma, dans le centre du pays, dans la zone dite des 3 frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Un territoire désertique où règnent en maître les djihadistes. Le mode opératoire rappelle les attaques de Daesh en Syrie ou en Irak. Un véhicule suicide lancé à vive allure en direction du convoi de la force Barkhane en pleine opération aux côtés des FAMA, les soldats de l'armée malienne. La course du véhicule piégé a été stoppée net par un blindé de combat d'infanterie qui est parvenu à s'interposer avant que le kamikaze n'actionne sa charge explosive. Le bilan est de 6 blessés parmi les militaires français qui ont été immédiatement pris en charge avant d'être évacués en hélicoptère à l'hôpital militaire de Gao. 3 d'entre eux sont en cours de rapatriement vers la France. Leur pronostic vital n'est pas engagé selon l'état-major de la force Barkhane. Depuis 2013, 50 soldats français ont été tués au Sahel dans le cadre des opérations anti-djihadistes. Les 2 dernières attaques mortelles ont toutes deux été revendiquées par le groupe de soutien de l'islam et des musulmans affiliés à Al-Qaïda.
Omar Waman. Une catastrophe pour les éleveurs de canards du sud-ouest et particulièrement dans les Landes. La grippe aviaire est en train de se propager dans les élevages. Des centaines de milliers de canards vont être abattus. Il s'agit de la 3e épizootie de grippe aviaire en 5 ans et le virus est extrêmement contagieux. Jean-Luc Guérin, professeur à l'École nationale vétérinaire de Toulouse, spécialiste de pathologie aviaire.
Il faut reconnaître que nous sommes tout à fait surpris par l'extrême contagiosité. Certains cas peuvent se comprendre, d'autres plus difficilement. Et donc, effectivement, la maîtrise aujourd'hui de l'expansion du virus est compliquée. L'enjeu, c'est de monter en capacité. Il faut, si vous voulez, arriver à la fois à aller vite, il faut aussi respecter les gens, il faut respecter les éleveurs, il faut respecter les animaux, il faut que le travail soit fait en respect des règles de bien-être. Donc, c'est toutes ces contraintes-là qu'il faut arriver, si vous voulez, à concilier.
Sur les abattages autour des animaux qui ont été identifiés comme étant contaminés, la Confédération paysanne disait qu'elle ne trouvait pas ça nécessaire. Qu'en pensez-vous ?
Ben, je pense qu'il suffit de regarder ce qui se passe pour se rendre compte que c'est malheureusement nécessaire. C'est peut-être même insuffisant. Il est nécessaire de le faire et surtout de le faire vite.
Jean-Luc Guérin avec Hercine Lebovitch, La prescription culture pour ce week-end avec un premier roman aussi riche que le roi d'Abigail Assor, une jeune auteure trentenaire, son héroïne Sarah, jeune ambitieuse des quartiers pauvres de Casablanca, est déterminée à utiliser tous les moyens dont elle dispose, surtout sa beauté, pour sortir de la misère. Un portrait sensuel et saisissant du Maroc d'aujourd'hui, Lana Marioussef.
Elle n'a que sa beauté et elle en joue. Bien décidée à s'en sortir, Sarah se promet qu'un jour, elle épousera un homme aussi riche que le roi. Cela commence donc comme une histoire d'amour entre deux êtres de milieux sociaux aux antipodes l'un de l'autre. Abigail Assor.
J'ai grandi à Casablanca et c'est vrai que j'étais assez marquée par une sorte de violence un peu sourde dans la ville, dans les rapports entre les gens et puis beaucoup d'hypocrisie par rapport à l'ordre établi religieux, moral, qui était assez pesant. La seule possibilité de rencontre est dans un rapport de domination. On va rencontrer quelqu'un d'une autre classe sociale, soit parce qu'on le sert, soit parce qu'on est servi par cette personne.
La beauté de Sarah lui sert de passeport. Des terrains vagues des bidonvilles, aux villas calfeutrées de la colline d'Anfa, où la jeunesse bourgeoise s'ennuie au bord des piscines, Sarah porte son audace magnifique et son refus de se résigner.
C'est un mélange de plein de jeunes filles que j'ai pu côtoyer au lycée, où je sentais vraiment cette guerre intérieure, cette rage. Le quartier de Haï Mohammadi, c'est pas du tout un quartier anodin. C'est un quartier, notamment le bidonville des Carrières Centrales, qui a été le berceau de résistance, notamment pendant la colonisation, qui a vraiment montré une rébellion, une irrévérence qu'il n'y avait pas du tout dans les quartiers bourgeois.
Qu'importe qu'elle soit vouée à l'échec, la révolte est belle, l'écriture ardente d'Abigail Lassaure nous le rappelle.
Aussi riche que le roi d'Abigail Lassaure chez Gallimard. Le temps pour cet après-midi et pour demain.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Avec Via Santé, devenons tous acteurs de notre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va ?
Jean-Michel Golinski.
Une journée marquée par un temps calme et froid sur la plupart des régions, une ambiance plus perturbée du piémont pyrénéen à la Méditerranée, donnant un épisode de forte neige sur le relief des Pyrénées et un saupoudrage de quelques centimètres sur les départements limitrophes. Sur les rivages méditerranéens, risque de pluie éparse, parfois mêlée de flocons sur la Provence. Sur la Corse, là, les précipitations seront plus marquées avec de la neige en moyenne montagne, doublée d'une vigilance orange en raison du fort risque d'avalanche. Partout ailleurs, les brouillards givrants et les grisailles évoluent très lentement, laissant les températures maximales entre 2 et 4 degrés en général sur les deux tiers nord et dans le quart sud-ouest. Il fera 6 à 11 du golfe du Lion à la Côte d'Azur et sur la Corse.
Jean-Michel Golinski de Météo France.